l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi avec des températures qui sont un petit peu plus respirables et ça fait un bien fou. 12 heures passées d'une minute dans quelques instants. On va découvrir un amoureux de Lourdes, il y vient depuis 40 ans. Il vient aider les gens qui franchissent les portes de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Il a écrit un livre, il sera en dédicace demain à la librairie du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. On va découvrir un petit peu le personnage et puis également donc quelques mots sur le livre. Que si vous êtes disponible dans la région, eh bien n'hésitez pas à venir le rencontrer. Et puis l'été, c'est aussi l'occasion de réécouter le meilleur de notre saison dernière. Eh bien, notre correspondante dans le Gers, Pauline Cazier, eh bien s'était intéressée pendant cette saison, aux alentours du mois de mars, à l'élection de Miss Grand-Mère dans une EHPAD, une infirmière qui aime son métier, eh bien, a pris les choses en main et a organisé l'élection, donc fait participer une résidente à l'élection Miss Grand-Mère. Vous verrez que c'est absolument adorable. Et puis, il y a un jour, un livre en auteur, pendant l'été aussi, le meilleur de la saison dernière. On va repartir dans l'histoire, puisque on a fait une émission spéciale le 13 juillet sur l'hymne national. Et bien là, on va partir dans la mini-révolution qu'il y a eu entre les Versaillais et les Parisiens sur la Commune de Paris. Deuxième émission donc consacrée à cette révolution. Mais pour tout de suite, on retrouve mon invité.
Radio Présence à Luchon. 94 FM.
C'est un ami de Lourdes que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Pierre Guilbault.
Bonjour.
Merci d'être passé par nos studios. Vous avez l'habitude de venir nous faire un petit coucou chaque année. Et chaque année, ça fait beaucoup d'années, puisque ça fait 40 ans aujourd'hui que, enfin cette année particulièrement, que vous êtes bénévole à l'accueil des personnes handicapées à l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
C'est tout à fait ça.
J'ai dans les mains un livre que vous avez écrit et donc on peut déjà noter que vous serez en dédicace demain, jeudi, donc à partir de 11h à librairie du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, à l'intérieur du sanctuaire.
Voilà, je remercie pour leur accueil d'ailleurs.
on va parler un peu de ce livre, mais on va parler un peu de cette grande aventure au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Pierre Guilbault, vous êtes un amoureux de Lourdes. On s'est rencontrés effectivement il y a pas mal d'années. Vous étiez venu à la radio et vous aviez ce projet de faire ce qu'on m'avait dit, un vidéo-son. C'est-à-dire que vous vouliez mettre une personne, entre parenthèses, normale, en situation de cécité visuelle. Voilà, on vous met un masque, on ne voit plus et on entend des bruits, des choses et on doit se repérer. Et là, c'était vraiment pour mettre la personne en réalité d'une personne malvoyante. Hein. C'était ça un peu
c'est,
le but.
C'est
hein.
Tout à fait ça, oui, oui. On s'adresse plutôt à des groupes, mais si une personne demande de faire un petit parcours en... guidé, je suis toujours disponible et voilà, on a des belles sensations pour se repérer et se perdre aussi.
Ouais. Le livre s'appelle « Vous serez vraiment grand, hymne à l'amour, vous êtes un découvreur de trésors ». Ouais. Il y a quelqu'un qui aura marqué votre vie, il s'appelle Lionel.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a 40 ans, j'ai un ami, Joël, j'ai une grosse pensée pour lui puisqu'il vient de décéder, qui est le parrain de ma fille, qui était bénévole à l'OCH. Et il y a 40 ans, mon couple s'est déchiré et j'étais un peu perdu. Quand je dis un peu, voilà, c'était beaucoup. Et Joël me dit, mais pourquoi tu viendrais pas avec moi à l'OCH? Pourquoi pas, puisque au point où j'en suis. Et puis, je suis arrivé à l'OCH, et puis il y a une personne qui m'a accueilli, qui s'appelle Georgette, qui est sûrement au ciel maintenant, qui m'a accueilli en me disant, est-ce que t'as mangé? Non. Et puis, j'ai pas grand-chose. J'ai un morceau de pain dur, de pain rassis, pardon, et puis un bout de saucisson, et puis un œuf dur. Vous voyez, 40 ans après, je me rappelle de de ce festin qu'elle m'a offert, parce qu'elle me l'a offert avec le cœur. Et le cœur est très important dans l'accueil qu'on peut faire à l'OCH. Et puis l'après-midi, on m'a confié Lionel. Tiens, tu vas t'occuper de Lionel. Alors Lionel, c'est un petit garçon qui n'avait pas la parole, parce qu'il est décédé lui aussi. Et puis il avait une main complètement tordue. Puis dans cette main, il tenait un petit avion jaune avec une hélice. Puis avec un doigt de l'autre main, il passait son temps à faire tourner l'hélice. C'est tout ce qu'il faisait. J'étais jeune éducateur. Pétri de ma science, j'ai passé l'après-midi à réfléchir. Puis le soir, je me suis aperçu que j'avais rien trouvé pour entrer en relation avec lui. Et le soir, avant de m'endormir, je fais le point et puis... Mais je dis, mais on a fait pourtant un tas de choses cet après-midi. Il m'avait entraîné, on était à l'époque de l'autre côté du boulevard, entre l'évocation et la mission.
D'accord, oui.
où les bâtiments n'existent plus. Et puis, il m'avait emmené au bout du terrain, frotter les pieds dans les gravilles. On était revenu manger un gâteau. On était reparti. On était revenu boire un verre d'eau. Et puis je dis, et là, je me suis aperçu que. Moi, j'avais réfléchi, et lui, il était rentré en relation avec lui, avec moi. Moi, avec ma science, j'étais handicapé, en fait. Et que lui, sa science à lui, c'était son cœur. Et il s'est devenu un très, très grand ami. Parce que dans les années qui ont suivi, quand je venais à Lourdes, j'allais loger chez les parents. J'ai même eu le privilège de faire sa toilette. Enfin, voilà, c'est un grand, grand, grand ami. Et voilà. Bon.
Et vous m'avez dit que, en fait, Lionel, avec son handicap, il a permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui.
Ah, complètement. Complètement, parce que.
C'est l'histoire du livre.
C'est l'histoire du livre. C'est tout le long du livre, ce sont que des rencontres de ce genre, très fortes, où notre intelligence est malmenée. Et moi, j'appelle ça maintenant les cadeaux de Marie. À chaque fois, je finis mon séjour. Et les cadeaux, il y en a eu. Hier encore, j'ai retrouvé un jeune qui s'appelle Moïse. On a passé l'après-midi quasiment ensemble, sans un mot. Mais alors, c'était rempli d'amour. Et sa petite sœur, à chaque instant, venait lui faire des gros câlins. C'était vraiment touchant, quoi. Enfin, on est bouleversé. Et ça, si on se laisse pas apprivoiser et convertir, faut qu'on change de métier quand on est éducateur, quoi.
Vous êtes à la retraite aujourd'hui?
Ah oui, ça fait 15 ans.
Voilà, vous êtes donc à la retraite. Vous venez toujours à Lourdes?
Toujours. Tant que je pourrai, je viens. Tant que mes amis me supporteront, je crois que c'est...
Et vous faites ce séjour où vous mettez donc au service, oui. Et à l'accueil des personnes, voilà. Handicapées, hein, oui. Au sanctuaire.
Voilà. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est... Alors, ce qui est important aussi dans ma philosophie lourdaise, c'est que chaque année, je reviens... comme un homme nouveau, comme si j'allais découvrir. Et ce qui est le cas, parce que Chaque jour est différent et si j'arrivais en disant aux autres, dis donc, ça fait 40 ans que je viens, moi je sais, non, quand j'arrive je ne sais pas plus que celui qui démarre, quoi. Oh, je connais comment que ça marche.
40 ans, vous n'êtes jamais, voilà, il n'y a pas pour vous une routine, il n'y a pas, c'est pas une contrainte, c'est comment vous, dans quel état d'esprit, bon, vous dites, j'arrive, je suis de nouveau tout neuf, mais il y a 40 ans d'expérience, il y a 40 ans de... Là, en ce moment, il fait chaud, ça ne doit pas être évident. On prend de l'âge, on n'a peut-être pas non plus la même patience, on n'a plus la... Mais vous êtes toujours là.
Oui, oui, oui. Alors, il y a des jours où c'est un peu plus difficile, évidemment, mais je pense qu'on a, on a des grâces, quoi. Parce que je pense qu'il y en a une qui est derrière tout ça, quand même. Et presque, je dirais deux, parce que j'aime beaucoup Bernadette et l'OCH ressemble beaucoup à Bernadette. Parce qu'on reçoit des gens pour la société qui sont ignorants, qui sont malades. Pour la plupart, ils sont pauvres. Et on reçoit que des Bernadettes.
Oui, et rejetés aussi.
Et rejetés. Ouais. Pour la société, ils sont rien. Et moi, ils m'ont guéri. Hein. Ils ont guéri ma blessure d'amour. Et je pense que derrière tout ça, Dieu m'attendait avec un projet. Je démarre le livre avec un poème que j'avais fait et avec sur les petits chiens là qui vont manger les miettes, et je me considérais un peu comme ça en disant bah maintenant que je suis séparé, bah pour l'Église c'est fichu, quoi. Et puis Dieu, il avait un sacré projet pour moi, quoi. Et il m'a donné l'amour qui... Je demandais de l'amour.
Oui, il vous a donné un autre amour.
Un autre amour qui est encore, mais 100 ouais. fois plus fort. Et juste pour répondre à votre question, il y a, on va dire, 35 ans, on m'avait demandé d'écrire un témoignage pour le journal de la Grotte. Alors, vous voyez, on situe le.
Voilà, c'est devenu après Lourdes Magazine.
Voilà. Et je dis, il faut que je trouve un titre. Et tout d'un coup, ça m'est venu, je dis, je suis tombé malade de Lourdes, mais je ne tiens pas à guérir.
C'est joli. C'est joli. Voilà. Votre livre, vous démarrez toujours les chapitres, d'abord ce sont les chapitres très courts, oui. Par une citation, quelle qu'elle soit.
Oui.
Oui, là je tombe sur la page 101, Kevin, comment se faire comprendre quand on n'a pas de communication verbale. Et là, vous mettez cette citation, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Peter Drucker.
Oui.
Et vous démarrez les chapitres par une citation.
Voilà. Alors, Kevin, c'était un petit garçon aveugle qui était autiste, qui s'auto-mutilait. Et à la fin de ma carrière, j'étais instructeur de locomotion. Alors j'explique très rapidement. C'est mon métier, c'était de permettre aux gens de pouvoir se déplacer en autonomie avec la canne blanche. Voilà. Et ben Kevin, il a jamais eu de canne blanche parce qu'il pouvait pas. Enfin, mais l'expérience de Lourdes m'a entraîné vers ce genre d'enfant. Je dis, il y a aucune raison qu'on permette à quelqu'un d'intelligent, entre guillemets, de pouvoir traverser des carrefours, des rues, d'être autonome dans la rue, et que ces petits-là soient toujours tributaires de quelqu'un, ne serait-ce que pour aller faire pipi. Et déjà, si j'arrive à leur faire le parcours entre leur chambre et les sanitaires, ça sera un exploit. Et j'ai voilà. Et il y a plein d'exemples parce que, bah, eux aussi, ils m'ont surpris. Et Kevin, il me griffait les mains. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était une façon de dire je ne veux pas faire ce que tu me demandes. Et le jour que j'ai arrêté, que j'ai persuadé aussi la chef de service de dire ben, j'arrête, quand j'allais chercher un autre enfant dans le groupe, il venait me faire des câlins. Vous voyez ? Entre l'agression pour dire t'arrêtes tes bêtises. Et après, merci, voilà, je te sers contre moi. C'est beau.
Ouais, ce livre, donc, est tout un témoignage de rencontres que vous avez fait uniquement à l'OCH ou aussi dans votre carrière professionnelle.
Alors, c'est un comme je le disais au début, mon expérience de Lourdes a éclairé largement ma pratique professionnelle. Et donc c'est un voyage entre les deux, quoi. Voilà, avec des j'ai choisi des personnes qui m'ont
quand
marqué.
Quand on s'occupe comme ça de personnes en situation de handicap toute l'année et que c'est votre profession, on aime bien aussi des fois un peu couper et prendre soin d'un peu de soi. Mais vous, vous décidez en plus de venir à l'OCH et vous mettre encore au service.
Oui. Parce que j'avais besoin de nourrir mon travail. Et à Lourdes, je venais prendre de la nourriture auprès des personnes qu'on peut accueillir.
Quand votre ami vous fait venir il y a 40 ans, et vous dit, bon, voilà, tu es un plein chagrin d'amour, ça va pas, viens avec moi à l'OCH. Vous aviez déjà une pratique quelque part religieuse ou vous avez vraiment découvert Lourdes à travers l'invitation de votre ami, où vous aviez quelques quand même connaissances?
Oui, oui, je veux dire que je suis religieux dans les gènes, on va dire.
D'accord.
Voilà. Moi, j'ai découvert Lourdes en 1957. Alors, j'aime bien raconter ça parce que je suis venu en voyage de noces avec mes parents et mes deux frères. Parce que mon papa avait fait la guerre et ils se sont mariés, il était prisonnier, enfin, etc. Donc, ils avaient jamais pu faire ce qu'ils voulaient faire, leur voyage de noces à Lourdes. Ils l'ont fait avec leurs trois enfants. Voilà, j'ai découvert Lourdes à ce moment-là.
Donc, c'est un caractère très,
oui,
très personnel.
Oui, oui. J'avais un engagement assez fort parce que j'ai dirigé plusieurs chorales d'enfants et voilà. Donc, et entre autres, des chorales qui chantent à l'église, quoi. Donc,
Vous serez vraiment grand. Hymne à l'amour. Il y a marqué un sous-titre découvreur de trésors. C'est 40 ans au service donc des personnes qui en situation de handicap, particulièrement le visuel. Hein, vous avez
moi pour mon métier, pour, oui.
Voilà.
Oui, oui.
Mais ici à Lourdes, vous avez effectivement tous les cas de figure. Voilà, malgré votre profession, vous venez au service une fois par an.
Ouais.
Et ça dure depuis 40 ans.
Je suis tombé malade de Lourdes.
Pourquoi ce livre? Pourquoi vous aviez besoin de mettre par écrit pour vos enfants aussi, pour une sorte d'héritage? Au départ, l'idée de faire un livre, il y a plein de gens qui viennent en service qui ne passent pas le cap de d'écrire. Hein.
Au départ, dans ma petite tête, il faudrait que j'écrive sur ce que j'ai vécu dans ma carrière d'éducateur. Et puis un jour, Martine Diallo, qui est responsable de l'OCH Lourdes, me dit, mais quand est-ce que tu fais un livre sur ton expérience à l'OCH? Et puis, j'ai dit, tu te moques de moi, quoi. Non, parce que c'était venu parce qu'elle m'a demandé un petit bilan de mon passage une année. Puis je lui ai envoyé, puis elle me dit, c'est super, mais ça mériterait de devenir un livre. Puis je dis, mais je suis pas capable d'écrire un livre. Alors, je pense que l'Esprit Saint a dû m'aider un peu, mais beaucoup. Mais voilà, donc, c'est revenu à ma mémoire le fait que je voulais écrire sur ce que j'avais vécu dans mon métier. Et j'en ai fait, je dis ben voilà, mais les deux se correspondent et sont complémentaires.
Si vous voulez rencontrer et parler un peu plus profondément avec vous, Pierre Guilbeault, je rappelle que demain, hein, vous serez à partir de 11h à la librairie de la Grotte au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour dédicacer votre livre, je le rappelle, hein, c'est Vous serez vraiment grand, hymne à l'amour, découvreur de trésors, de Pierre Guilbeault, qui est paru aux éditions Le Lys Bleu. Alors peut-être vous, si vous nous écoutez et que vous ne pourrez pas venir, eh bien on peut bien sûr se le procurer dans une librairie.
Oui, partout en France,
partout
il est diffusé.
France,
hein.
Pierre Guilbeault, paru aux éditions Le Lys Bleu, et sinon, pour les gens qui sont pas très loin, je vous invite à venir vous rencontrer parce que vous êtes quelqu'un d'incroyable.
Il existe aussi en numérique avec possibilité audio.
Voilà.
Pour les personnes non-voyantes.
Voilà, donc il y a toutes les possibilités, donc effectivement, sont offertes. C'est un livre qui se lit très facilement, les chapitres sont courts, il y a des citations et vous racontez à la fois les rencontres faites ici, à Lourdes, et puis également dans votre vie professionnelle. Et Lourdes vous a nourri, vous a changé, vous a modifié, et vous avez adapté aussi, je pense, dans votre vie professionnelle, la façon d'aider les autres.
Complètement. Et dans ma vie tout court aussi.
Et dans votre vie tout court. Et la foi était là, et l'engagement également. Merci. Voilà, Pierre Guilbeault, on rappelle une dernière fois, vous serez vraiment grand, hymne à l'amour, découvreur de trésors. C'est paru aux éditions Le Lys Bleu et vous serez en dédicace demain à partir de 11h à la librairie de la Grotte.
Merci beaucoup.
À l'année prochaine peut-être.
Ah ben j'espère.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Présence sur le COS 106.5.
Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson colle à la peau. Quand le jour se lève sur Sing Sing, par contre on s'inquiète pour le temps. Le temps qui reste à tirer à Sing Sing, y'a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans, oui mais pas derrière des barreaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson dure un peu trop. Quand le jour se lève sur Zing Zing, et que c'est le dimanche qu'on attend, on va voir l'orchestre de Zing Zing. Il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dansant. Sur la chaise, il fit trois petits sauts. Oh Zing Zing, oh Zing Zing, ta chanson chauffe un peu trop. Ouais! Et quand la nuit tombe sur Zing Zing, on revoit nos amours dans le temps. On se dit qu'on sortira de Zing Zing quand nos poules n'auront plus de dents. Pense-t-elle encore à nous en ce moment, ou font-elles brûler nos photos? Oh Zing Zing, oh Zing Zing, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Sing Sing. Jusqu'à demain, évidemment.
Présence. Durant tout l'été, ce sont les meilleurs moments de l'année. Présence. Présence. Durant tout l'été, ce sont les meilleurs moments de l'année.
Maud Perrault, infirmière en EHPAD et l'initiatrice passionnée de ce concours national qui s'appelle Miss Grand-Mère. Elle organise seule cet événement sur son temps libre, animé par son profond attachement aux personnes âgées. L'objectif est de mettre à l'honneur la coiffure et la personne âgée et de revaloriser l'estime de soi des résidents de l'EHPAD. Ce projet apporte du rêve, du bien-être et du réconfort tout en favorisant les liens intergénérationnels. À l'EHPAD de la Roseraie à Auch, c'est Yvonne Gervaise qui a 102 ans, qui a gagné le concours et qui représentera l'établissement pour le grand concours départemental. Nous écoutons Annie qui est l'animatrice et Yvonne elle-même. Elles sont toutes les deux au micro de Pauline Cazier.
Du coup, quand j'ai vu ce concours, j'ai demandé aux résidentes qui voulaient participer et du coup, elles étaient quatre, dont Yvonne. Il y avait Yvonne qui a 102 ans, Maryse 95 ans, Lucienne, 92 ans, et Josette, 94 ans.
D'accord. Donc, comment ça s'est passé, la préparation?
Alors, du coup, on les a préparés. On a fait un vote sur Google Form, interne. C'était un vote interne. Donc, à l'EHPAD, avec les familles et tout. Et du coup, le lundi 9 mars, nous avons fait le dépouillement avec les familles, résidents et salariés. Et du coup, c'est Yvonne qui a été sélectionnée pour participer au concours national de Miss Grand-Mère 2026.
Alors, pour préparer ça, il y a eu des coiffeurs, il y a eu... Comment ça s'est passé?
Oui, il y a eu... Donc, du coup, c'était MV Formation Espace Coiffure de Mireille Ménien, en fait. Donc, c'est les filles qui ont coiffé, qui ont maquillé. On est allé au salon de coiffure avec les résidentes et toute l'après-midi, elles ont été chouchoutées, maquillées. Donc, voilà. Ça a été un bonheur pour elles.
Donc Yvonne, je vais lui passer la parole, mais donc Yvonne va aller en régional.
Alors Yvonne va aller en régional, mais elle va pas partir. Oui. Elle va rester à l'EHPAD. C'est juste le vote. Donc on a créé. Il y a une photo qui a été prise d'avant et après d'Yvonne. Et du coup, Maud, l'infirmière qui a créé ce concours, a mis un site pour pouvoir voter pour toutes les résidentes qui se sont présentées. De tout. Donc là, c'est le concours départemental et après régional.
Alors départemental, ça veut dire qu'il y a eu combien d'établissements qui ont participé?
Alors là, je crois qu'il y en a 17, mais oui. pas dans le Gers. Hein. Le Gers, on est les seuls. Hein.
Ah, très bien.
Donc du coup, il y a d'autres départements et là, je crois qu'il y en a 17 et donc on espère que Yvonne va gagner.
Et les critères de choix, quels étaient-ils?
Pour choisir...
Oui, oui, oui.
Bon, après, Yvonne, elle me suit partout, donc...
Ah oui, moi, j'aime beaucoup Annie.
Alors, je vais vous passer la parole, Yvonne. Je vais donner votre âge, vous avez 102 ans. Vous y voyez très bien. Vous entendez très bien. Vous êtes en pleine forme.
En pleine forme tout le temps.
Vous avez le moral.
À 100.
Alors, quand Annie vous a parlé de ce concours, vous avez été volontaire. C'était quoi vos envies?
On faisait partie d'un petit groupe, hein. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas, on s'est pas présenté, on nous a piqué.
Piqué.
On nous a piqué à droite, à gauche. Et puis celle qui voulait.
Oui. Ouais. Et donc la préparation, vous avez été chouchoutée, coiffure, maquillage.
Oui, mais enfin bon, vous savez, ça dure pas longtemps. Hein. Faut pas que ça dure longtemps parce que on n'est pas très patiente.
Donc là, qu'est-ce que vous avez gagné de ce concours? Vous avez eu sans doute un bouquet. Vous avez eu
une... Ah oui, j'ai un bouquet, j'ai une photo, j'ai. J'ai encore le bouquet, il est dans l'eau, il fleurit.
Et j'imagine que votre famille a dû être très très fière de vous.
Oui, mais enfin, vous savez, ma famille est dispersée en France. Mm-hmm.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Est-ce que vous avez toujours vécu dans le Gers? Racontez-nous
non.
Un petit peu.
Mon mari étant militaire, un pilote d'un avion de chasse pendant la guerre. Il était partout avec son avion. Mmh. Enfin, il suivait son groupe. Et c'est pas que lui.
Et vous l'avez suivi sur ces différents...
Moi, j'ai suivi. J'ai eu 4 enfants.
4 enfants?
Un garçon et 3 filles.
Donc, est-ce que vous avez déjà vous avez travaillé pendant votre vie?
Travaillé pour la France. Mmh.
Donc là, vous êtes dans le département, mais quels sont les autres départements où vous avez vécu?
J'étais dans toute la France. J'étais en Pologne, à l'étranger aussi, quand on m'a envoyé là où il fallait aller. Et j'ai toujours rapporté ce qu'on m'a demandé. Mmh.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez faire?
Moi, j'aime tout.
C'est-à-dire tout, c'est très large tout.
Mais c'est nature. Écoutez, si j'aime pas, j'y vais pas. Et comme j'aime beaucoup de choses, je suis obligée de courir. Et ce matin, on était au marché avec Annie. Mais j'y étais, hein?
Oui.
Oh! Mais des activités, est-ce que vous aimez faire? Je sais pas, du dessin, de lire.
Écoutez, ce qu'on me demande, je vous le dirai. Mm-hmm. En fonction de ce que vous me demandez.
Vous n'êtes pas difficile. En tout cas, moi, je trouve que vous êtes vraiment très souriante.
Écoutez, je suis franche nature. Voyez, j'ai aucun maquillage, j'ai rien, jamais.
C'est aussi pour ça que vous avez gagné, c'est votre joie de vivre, ça a dû jouer.
Ma joie de vivre, c'est de vivre. Et de m'intéresser à beaucoup de choses.
Et vous, justement, est-ce que vous intéressez à l'actualité?
Oh, bien sûr.
Vous lisez le journal, vous regardez la télévision?
Oui.
Oui. Et vous gardez des souvenirs de vos voyages? Vous parlez de la Pologne, est-ce que vous avez encore des souvenirs?
Bien sûr que je parle. Oui. Oui. On m'a envoyé en Pologne, c'est pas moi qui suis là. Les demandes de mon cœur, de ma joie, de ma volonté, non. On m'a envoyé. J'avais une mission, je l'ai remplie. Et maintenant, fini.
Donc, on vous souhaite bonne chance pour la suite du concours.
Oui. Ouais, je vais voir si je peux le faire.
Alors, je repasse la parole à Annie pour terminer. Quand est-ce qu'aura lieu la finale régionale, c'est ça?
Alors, d'abord, on part en départemental qui se finit le 26, là.
26 mars.
Voilà, ouais. 26 mars. Et après,
on sait pas trop.
Au mois d'avril, c'est oui. Du 10 avril. Voilà, c'est toute une semaine, donc c'est régional. Donc là, on espère qu'il va falloir pousser tout le monde pour voter Yvonne. Et après, un national, mais qui finit, ouais, fin avril, je pense. J'ai pas les dates exactes sur moi, donc en tête. Donc voilà, mais on espère que Yvonne sera la gagnante.
On dépend de la France. On n'a pas un vouloir personnel.
Voilà, à l'instant, vous avez écouté Annie, qui est animatrice dans l'EHPAD de la Roseraie à Auch, et puis Yvonne, 102 ans, qui a donc gagné ce concours et qui représentera donc son établissement dans le grand concours départemental de Miss Grand-Mère. Un grand merci à Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Présence. Durant tout l'été, ce sont les meilleurs moments de l'année. Présence. Présence. Durant tout l'été, ce sont les meilleurs moments de l'année.
Voilà, c'est vrai qu'on prend le temps pendant l'été de vous faire peut-être entendre ou réentendre des chroniques. Et un grand merci à Pauline Cazier qui prend quelques jours de vacances, mais qu'on retrouvera bien sûr très prochainement pour la rentrée. Elle n'est pas en vacances. Elle s'appelle Clémence Roux, c'est notre étudiante à l'école du journalisme. Et on la retrouve pour le journal de la mi-journée. Et un grand bonjour Clémence.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, Toulouse a vécu deux soirées de fête pour célébrer le 14 juillet. Lundi soir, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour assister aux feux d'artifice tirés depuis des berges installées au milieu de la Garonne. Les festivités se sont poursuivies hier soir avec un second spectacle au lac de la Rennerie. Deux rendez-vous qui ont marqué la fête nationale dans la ville rose. Près de Fonton, l'accès à un lac est temporairement interdit après la découverte de plusieurs poissons et oiseaux morts. Le site a été fermé au public par mesure de précaution. Des analyses doivent maintenant permettre de déterminer les causes de cette mortalité afin d'évaluer un éventuel risque pour l'environnement. Dans les Hautes-Pyrénées, un départ de feu s'est produit à Lourdes après le feu d'artifice du 14 juillet. Des flammes ont gagné la végétation à proximité du château fort. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus et sont parvenus à maîtriser l'incendie. Dans le reste de l'actualité, la start-up pyrénéenne Style Nexus 8 veut s'attaquer aux nombreux retours de vêtements achetés en ligne. Près d'un article sur trois serait aujourd'hui renvoyé. L'entreprise développe une technologie destinée à mieux adapter les vêtements à la morphologie de chaque client et ainsi limiter les retours de colis. À Toulouse, un nouveau club de football entièrement féminin se retrouve déjà confronté à un manque de terrain. Alors que 83 joueuses souhaitent rejoindre la structure, celle-ci ne dispose actuellement que d'un seul créneau de 2 heures par semaine. Les responsables du club demandent davantage de créneaux pour pouvoir accueillir toutes les joueuses. Enfin, le Toulouse Football Club renoue avec son identité historique. Les Violets ont dévoilé leur nouveau maillot domicile pour la saison à venir. Un modèle marqué par le retour des rayures emblématiques du club toulousain. Voilà pour l'actualité régionale.
Merci beaucoup Clémence Roux. Le prochain retour avec l'actualité, ce sera à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. On va partir dans l'histoire tout de suite grâce à Philippe Ny et Diego Rabal. C'est aussi des rediffusions, des chroniques de cet été, de cette saison. Pendant l'été, on prend le temps et on va parler de cette mini-révolution entre Versailles et Paris. Ça s'appelait la Commune.
Présence à Pau, 96.
Un jour, un livre. Un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
Nous l'avions promis et nous allons partir pour cette, je crois que c'est la plus belle capitale du monde, oui. Paris, mais on en parle d'une façon moins touristique, hein, votre sujet. Bonjour Philippe Noni.
Bonjour Philippe Subercaz.
Bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe Diego Arabal. Et bonjour Philippe.
Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition qui est donc la maison d'édition de ce livre.
On fait donc la continuité de la semaine passée. Oui. On va de nouveau avoir Roger Martelly qui est avec nous aujourd'hui pour Commune 1871, la révolution impromptue aux éditions Arcane 17. Pour parler, je l'ai dit la semaine passée dans le propos liminaire, pour parler de la Commune de Paris, qui est quand même un événement qui n'est pas forcément très connu. Moi, je me suis rendu compte que j'ai appris beaucoup de choses dans le livre de Roger Martelly. Alors, soit je les ai oubliées, soit je ne les ai jamais apprises. Je pense que pour la plupart...
Vous ne les avez jamais apprises.
Voilà, je ne les ai jamais apprises. Et on va reparler donc avec lui, effectivement, de ces événements. Bonjour, Roger Martelly.
Bonjour.
Merci d'être avec nous donc à nouveau aujourd'hui donc pour parler de la Commune de Paris. Alors, Philippe Subercaz, tout à l'heure, disait... Paris, Paris, c'est vrai que Paris aujourd'hui, Philippe Subercaz, je ne sais pas si vous le savez, mais le Sacré-Cœur, c'est un monument religieux qui a été monté suite à la Commune de Paris, oui, en 1871.
Pour expier les péchés.
Pour expier les péchés. Et ça, très peu de gens le savent. Les gens aujourd'hui vont, ils regardent Paris, etc., tout, sans forcément effectivement se souvenir du symbole. D'où le fait de rappeler que Paris, c'est beau, mais ça a aussi une histoire.
Ah oui, c'est une histoire, oui.
Et que le but...
Et ça n'est passé des choses à Paris.
Et ça n'est passé des
choses. Des belles et des moins belles.
Et des moins belles. Et là, on parle effectivement d'un peu moins belles. Alors, on parlait de vous, on parlait la semaine dernière, Roger Martelly, avec vous, du mur des fédérés. Du fait qu'il y avait des personnes, effectivement, qui avaient été déportées. Comment vous expliquez que... ce n'est qu'en 2016 que les héritières affirmées donc de la Commune de Paris, et surtout qu'on a reconnu donc effectivement l'héritage de la Commune de Paris. Pourquoi, à votre avis, il a fallu attendre aussi longtemps pour qu'il y ait cette reconnaissance au niveau de l'Assemblée nationale?
Pourquoi il a fallu autant de temps? Mais c'est finalement assez facile à comprendre, parce que cette Commune de Paris, ça a été évidemment, on l'a dit la semaine dernière, la possibilité pour tous les mouvements émancipateurs de rêver sur elle. Mais c'est un événement qui s'est terminé par un bain de sang épouvantable.
Combien de morts aujourd'hui?
Les chiffres, ça fait depuis... j'allais dire la commune elle-même, ça fait l'objet de beaucoup de débats. Les chiffres ont oscillé, j'allais dire entre 6 000 morts, évidemment avant tout du côté des communards, des partisans de la commune, jusqu'à 30 000. Aujourd'hui, on considère que ça doit vraisemblablement se situer quelque part entre 17 et 20 000 victimes, disons, hein, mais bon, bref. En tout cas, encore une fois, on l'a dit la dernière fois, le plus grand massacre de population civile qu'on ait connu depuis les guerres de religion, vous voyez que ça faisait une paye. Donc c'est un événement, j'allais dire, qui a un côté traumatisant. Et ce qui s'est passé, c'est que en 1880, l'Assemblée nationale, qui est devenue républicaine, n'oublions pas que au moment où se déroule la Commune de Paris, il y a une Assemblée qui a été élue en février 1871 et qui est archi-dominée par des monarchistes, ce qu'on appelle les légitimistes ou orléanistes, peu importe, c'est dominé par des monarchistes. Et il faut attendre 1877-1879 pour que les républicains deviennent majoritaires dans la République. Et l'un de leurs premiers actes, qui a été exigé par, j'allais dire, beaucoup de personnalités du courant républicain depuis 1871, je pense d'abord à l'immense figure de Victor Hugo, demande l'amnistie et la réhabilitation de ceux qui ont été condamnés en 1871 et de ceux qui sont morts à cette occasion. Et en 1880, l'Assemblée devenue républicaine décide d'amnistier les condamnés de la Commune. Mais amnistier, pas réhabiliter. Amnistie, ça signifie qu'on efface la peine, mais on n'efface pas la condamnation. Et les élites républicaines, qui sont à ce moment-là encore très conservatrices, ont finalement retenu de Victor Hugo une image. Victor Hugo disait l'amnistie, ça permet d'effacer les souvenirs de l'année terrible. Et donc, d'une certaine manière, il y a une conception officielle de l'amnistie qui renvoie plutôt à l'amnésie, c'est-à-dire à la perte de mémoire. Et au fond, le silence qui a pesé sur la mémoire de la Commune de Paris, en dehors du mouvement ouvrier qu'il a toujours célébré, mais le silence officiel dans la mémoire nationale sur la Commune de Paris est, j'allais dire, le contre-pied, le contre-coup de ce traumatisme des élites dirigeantes qui, à un moment donné, ont eu l'impression que la société était en train de leur échapper. Et il a fallu attendre, effectivement, 2016, c'est-à-dire pratiquement un siècle et demi, pour que la même Assemblée nationale qui avait amnistié les communards condamnés en 1880, décide non seulement de confirmer, bien entendu, l'amnistie, mais de la prolonger en réhabilitation. L'Assemblée nationale, en 2016, décide officiellement que la Commune de Paris doit devenir une pièce intégrante de la mémoire nationale.
C'est un vote à l'unanimité.
C'est un vote. C'est évidemment pas. C'est pas un vote à l'unanimité, mais quand même, on obtient cette décision. On obtient une majorité de l'Assemblée en 2016. Voilà. Eh bien, c'est un grand moment. C'est un grand moment parce qu'effectivement, pendant un siècle et demi, la Commune a été oubliée, volontairement oubliée. On a mis une chape de plomb sur la mémoire. Eh bien, cette chape de plomb a sauté. Je pense qu'il faut en profiter. Le 150e anniversaire a été l'occasion de beaucoup d'initiatives culturelles, politiques, associatives autour de la Commune de Paris. Le fait que la figure de Louise Michel se soit trouvée au cœur de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques indique que quelque chose s'est produit. Il faut en profiter, il faut cultiver cette mémoire. Il faut la cultiver pour ce qu'elle est, dans sa diversité. Respecter le fait que la Commune de Paris n'appartient à personne en particulier, mais appartient à tous. Et que d'une certaine manière, cette expérience, cette mémoire, cette affection et cette passion pour la Commune de Paris doit être un élément, un ferment de rassemblement de tous ceux qui continuent un siècle et demi après de rêver l'émancipation.
Philippe Chebercaz a une question pour vous.
Si on regarde par exemple les commentaires ou sur Wikipédia, on dit que les Parisiens essentiellement ouvriers, artisans et professions libérales se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers qui veut désarmer la garde nationale et empêchant l'enlèvement des canons de la garde nationale. Le gouvernement donc quitte Paris pour Versailles. C'est les événements.
Oui.
Quel regard vous avez aujourd'hui le désintérêt, quand on voit que il y a des gens qui étaient capables de se mobiliser, de descendre dans la rue, voire même de jouer leur vie pour pour la démocratie,
comme des femmes,
disons comme des femmes, et en compagnie avec leurs enfants, en famille, ils sont descendus pour dire stop, c'est plus possible. Et quand vous voyez aujourd'hui le désintérêt pour aller voter, pour quel est votre regard, et quand on voit qu'il y a des gens qui étaient prêts à mettre leur vie pour leur conviction, et qu'aujourd'hui, quand on discute avec les gens, tout vaut personne ne va voter, parce qu'on rappelle que par exemple les femmes, il n'y a pas si longtemps qu'elles ont le droit de vote, juste après la guerre,
1946,
et qu'en fait il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour avoir ce droit, et qu'aujourd'hui, alors bien sûr on peut ne pas avoir de conviction et se dire que tout le monde est, mais aller voter nul, blanc, il y a des possibilités pour dire, bon, je reconnais personne, mais je fais cet acte d'aller voter. On a l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle des politiques, c'est tous pourris, et donc on se déplace plus, mais qui est capable aujourd'hui, qui serait encore capable de descendre dans la rue et jouer sa vie pour des convictions?
Alors moi, je pense qu'il y a, de ce point de vue, un potentiel qui est au moins aussi grand que celui de l'époque de la commune. Ah oui, je le pense profondément. Nous avons vécu l'an dernier, par exemple, un mouvement social d'une ampleur insoupçonnée. Le mouvement sur la question des retraites, derrière la question des retraites, il n'y a pas simplement, j'allais dire, une question d'annuité ou des petites questions techniques. Il y a la question de savoir, à un moment donné, il y a la possibilité, à un moment donné, de permettre à des gens, à l'issue d'une période de longue période de travail, de pouvoir vivre dans la dignité, de pouvoir vivre de façon à s'engager dans d'autres choses qu'une activité professionnelle, s'engager dans des associations, etc., etc. Bref, il y a l'idée, à un moment donné, que une société ne peut fonctionner, encore une fois, que sur la base de l'émancipation. Ça, je pense que cette conviction, elle est profondément ancrée. Simplement, il manque peut-être quelque chose. Au fond, si on réfléchit, en 1871, nous sommes finalement moins d'un siècle après le déclenchement de la Révolution française. Oui. Nous sommes dans une période qui est marquée par l'idée révolutionnaire. Cette idée, à un moment donné, la société doit être une société d'égalité. Vous savez que les sans-culottes parisiens, pendant la Révolution, ils parlaient de l'égalité sainte. C'est-à-dire que pour eux, il ne peut pas y avoir de société libre si ce n'est pas une société composée par des individus égaux entre eux. L'égalité. Eh bien, en 1871, cette idée est encore ancrée profondément dans les cultures populaires. Mais ce qu'il y a à l'époque, c'est justement que les gens qui sont exploités, qui sont dominés, qui sont aliénés, à cette époque-là, ils ont le souvenir de la Grande Révolution. Et donc, ils ont comme perspective l'idée que la lutte, c'est pas simplement une lutte contre quelque chose, contre une société d'injustice existante, mais qui a la possibilité de rêver à une autre société possible. La question qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que, malheureusement, les expériences qui ont été, par exemple, celles du XXe siècle, sont des expériences à double tranchant. Il y a eu au XXe siècle des grands mouvements émancipateurs. Les révolutions, communistes du début du siècle en Russie, les mouvements d'émancipation du monde colonial, les grands mouvements, j'allais dire, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, contre les discriminations, etc. Tout ça, ça a marqué le XXe siècle. Et le XXe siècle, ça a été aussi celui des illusions déçues. Ça a été celui du retournement dans de nombreuses sociétés. Je pense à ce qui s'est passé à l'est de l'Europe ou en Chine ou ailleurs, où l'idéal d'émancipation s'est retourné dans son contraire, a débouché sur des sociétés qui étaient des sociétés dans lesquelles il y avait une attention au social, mais dans lesquelles, par exemple, l'exigence de liberté était foulée aux pieds. Eh bien, tout ça, ça a terni l'idée d'émancipation, l'idée d'égalité, l'idée de citoyenneté. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des tas de gens qui rêvent de quelque chose d'autre. Mais ce qui manque, c'est la conviction que on peut réellement construire autre chose que la société dans laquelle nous vivons. En 1871, les ouvriers parisiens rêvaient à la République démocratique et sociale, la sociale, comme on disait. Le mouvement ouvrier, pendant des décennies, s'est construit autour de cette espérance. Et c'est cette espérance qui faisait que la colère sociale ne se transformait pas en ressentiment, mais en combativité. C'est ça, la Commune de Paris. C'est ça, l'histoire du monde ouvrier. Et ce qu'il faut au fond aujourd'hui, c'est le lien entre la colère et l'espérance.
Ouais, je vais lire Roger Martelly justement pour aller dans votre sens. Alors, moi j'ai trouvé ça très intéressant dans votre livre, hein, dont je rappelle le titre, hein, La Révolution Impromptue, donc aux éditions Arcane 17. Hein, je rappelle également que vous êtes donc historien et que c'est un travail de recherche hein, que vous avez réalisé. Vous avez des annexes. Et dans les annexes, vous mettez notamment en page 186. Cette annexe de la mairie du 3e arrondissement, qui date du 23 avril 1871, et qui est une annexe sur les écoles laïques que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Voilà ce qu'elle dit. Citoyen, le terme est fort, hein, c'est pas n'importe lequel, hein, c'est pas sujet. Citoyen, ce que vous réclamiez avec nous depuis si longtemps, ce que les hommes du 4 septembre nous avaient refusé, l'instruction purement laïque est un fait accompli pour notre arrondissement. Par notre sollicitude et les soins de la commission d'enseignement des rues Ferdinand Berthoud, Neufbourg-l'Abbé et de Béarn est à partir de ce jour confié à des instituteurs laïcs. Nous espérons, pour l'avenir de notre pays, que ces institutions, que ces instituteurs formeront des citoyens instruits de leurs droits et de leurs devoirs envers la République. Paris. Le 23 avril 1871, les membres de la commune, Arnaud, Demey, Clovis Dupont, Pindy. Et ça, je trouve que c'est exemplaire. Moi, j'ai beaucoup apprécié que vous citiez cela parce que ça donne un exemple précis des objectifs que se donne la commune. Et quand je dis la commune, c'est là le 3e arrondissement de Paris.
Bien sûr.
Et qui espère pour la République et qui s'adresse aux gens en ne disant pas ben, dans un royaume, hein, c'est des sujets, dans l'empereur c'était des sujets, mais qui dit citoyen, c'est-à-dire qui d'emblée reconnaît ces gens comme des citoyens et veut les former pour les faire devenir citoyens pour qu'à un moment donné ils s'inscrivent effectivement dans cette histoire de la République. Moi c'est là où je trouve qu'il y a cet objectif. Et alors, la question que j'avais par rapport à ça, c'est quelle a été dans le mouvement de la Commune de Paris, la place des femmes.
Et la place des femmes a été considérable, avec un bémol quand même qui n'est pas secondaire. C'est les femmes sont au cœur du mouvement de la Commune de Paris. Elles sont directement associées aux réalisations décidées par la Commune de Paris, mais on ne leur donne toujours pas le droit de vote. Voilà. Hein, donc il y a, j'allais dire, une double face à la question des femmes et de la Commune de Paris. Les femmes sont au cœur du mouvement de la Commune. Elles participent aux discussions, elles participent à la vie des clubs, elles sont directement associées aux activités officielles de la Commune de Paris, mais elles n'ont pas le droit de vote. Voilà. Donc ça, c'est la complexité qui est la complexité de l'histoire française. Hein. Mais il n'en reste pas moins que les femmes sont au cœur du mouvement. Voilà. Et que ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça a marqué les consciences. Hein. Et cela a permis, notamment dès la fin du 19e siècle, d'avoir un mouvement, j'allais dire, qu'on appellera par la suite féministe.
Et le mouvement des suffragettes.
Voilà, les suffragettes, mais qui s'expriment à l'intérieur du mouvement ouvrier par l'organisation ouvrière. Les ouvrières vont devenir, par exemple, la part entière des éléments du combat pour l'émancipation ouvrière, pour la libération sociale. Ça, c'est la Commune de Paris. Mais entre parenthèses, il y a quelque chose quand même qui doit faire réfléchir. Hein. La Commune de Paris, elle brûle la guillotine. La peine de mort, voilà, elle est contre la peine de mort. Elle proclame la séparation de l'Église de l'État. Elle décide que l'école sera gratuite et sera laïque. Elle va décider que les ateliers qui ont été abandonnés par leur patron pendant la période de la guerre et qui sont restés déserts vont devenir à un moment donné la propriété des travailleurs eux-mêmes qui vont gérer l'entreprise en question. Voilà ce que décide la Commune de Paris. Il a fallu attendre les années 1880 pour que l'école devienne libre, gratuite, laïque, obligatoire, avec les lois de Jules Ferry, qui, entre parenthèses, était un des massacreurs de la Commune. Mais passons. Il a fallu attendre 1905 pour que l'Église et l'État soient séparés l'un de l'autre, que l'État soit libéré de l'empreinte de l'Église, mais que l'Église elle-même ne soit plus dominée par l'État. Et il a fallu attendre le Front populaire et la Libération pour les grandes lois sociales et en particulier pour les nationalisations. Au fond, on peut se dire, mais que de temps perdu ! Que de temps perdu ! On a massacré la Commune de Paris, qu'a gagné la République, ben, elle a pris du retard. Elle a pris du retard et d'une certaine manière, le retard pris, c'est que cette République, qui n'a plus été véritablement contestée, sauf pendant la période de la collaboration. Cette République, à la fois, a été solide, mais il lui a manqué quelque chose pour devenir véritablement une appropriation populaire. Une République qui n'est pas à la fois démocratique et sociale, au bout d'un moment, les individus qui la composent finissent un peu par se détourner d'elle, considérer que bon, c'est pas si intéressant que ça. Et à ce moment-là, par exemple, le peuple souverain finit par abdiquer lui-même sa souveraineté. Le développement de l'abstention, pour une part, c'est un abandon de la souveraineté proclamée par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et qui est au cœur de l'affirmation de la Commune. Parce que ce qui est le plus important dans la Commune, c'est l'idée qu'à un moment donné, les catégories populaires disent « Nous n'avons pas, nous en avons assez » d'être dominé ou simplement représenté par d'autres, nous voulons être véritablement souverains. Et c'est ça qui est l'idée qui est au cœur de la Commune, et c'est sans doute ce qui est la plus grande modernité de la Commune. Un peuple ne peut pas être véritablement libre s'il n'est pas pleinement souverain, et pour être pleinement souverain, il faut qu'il soit concrètement associé à toutes les décisions. Entre parenthèses, ce que nous vivons de vivre depuis quelques semaines montre que nous en sommes évidemment manifestement bien loin. Et c'est bien dommage. Et c'est pour ça qu'il faut se souvenir l'expérience de la Commune de Paris.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Roger Martelly.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Nonni, Philippe Subercase.
Flamant aux allures.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
À quelques heures du vote définitif sur l'aide à mourir en France, le Saint-Siège interpelle les